Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre Les Neuf, l'histoire vraie des Temeliers en 19-314 est un ouvrage historique consacré à l'ordre du Temple. Depuis sa fondation au début du XIIe siècle jusqu'à sa suppression officielle au début du XIVe siècle, le livre se présente comme une enquête documentaire. Plutôt que comme un récit romanesque, il cherche à distinguer les faits établis des légendes accumulées autour des Templiers en s'appuyant sur les sources médiévales, les procès-verbaux et les archives disponibles. Son objectif est de replacer l'ordre dans son contexte politique, religieux et militaire, tout en examinant la naissance des grands mythes qui l'entourent, notamment le Graal, le Baphomet, le trésor caché et l'idée d'une survie secrète après 1314. L'ouvrage vise ainsi un lectorat intéressé par l'histoire médiévale rigoureuse et par la critique des récits ésotériques qui ont longtemps brouillé la perception des Templiers. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la fondation de l'ordre du Temple et son expansion en puissance européenne. Le livre part de l'idée fondatrice selon laquelle l'ordre du Temple naît dans un contexte de croisade, avec une petite communauté de chevaliers devenue progressivement une institution majeure du monde chrétien latin. Cette trajectoire est essentielle parce qu'elle montre que les Templiers ne sont pas d'abord un mythe, mais un ordre militaire et religieux doté de règles, de biens, de réseaux et d'une mission précise. L'intérêt du livre est de faire comprendre comment une structure née pour protéger les pèlerins et servir la Terre Sainte a pu se transformer en organisation internationale influente, présente dans de nombreuses régions d'Europe. En décrivant cette montée en puissance, l'ouvrage éclaire aussi les raisons de sa visibilité durable dans l'histoire occidentale. Il ne s'agit pas seulement d'énumérer de dates, mais de montrer comment l'ordre a acquis une place centrale grâce à sa discipline, à son implantation foncière et à sa capacité de gestion. Cette lecture permet de saisir pourquoi les Templiers ont été à la fois admirés, redoutés et finalement ciblés par les pouvoirs politiques. Deuxièmement, une démonstration fondée sur les archives contre les légendes templières. L'un des axes les plus marquants du livre est sa volonté de combattre les récits fabriqués autour des Templiers à partir d'une lecture directe des sources. L'ouvrage insiste sur l'absence de preuves documentaires pour plusieurs croyances populaires, ce qui lui permet de replacer le débat sur un terrain historiographique plutôt que romanesque. Cette méthode est importante car les Templiers ont souvent été utilisés comme support de projections modernes, qu'il s'agisse de sociétés secrètes, de trésors occultes ou de traditions initiatiques. En revenant aux documents médiévaux, l'auteur cherche à montrer ce qui est réellement attesté et ce qui relève de l'imagination postérieure. Cette démarche donne au livre une fonction critique claire, apprendre au lecteur à distinguer la documentation d'époque des reconstructions tardives. Le propos n'est donc pas seulement de contester des rumeurs, mais de rappeler qu'une histoire sérieuse commence par l'examen des sources, de leur contexte de production et de leur fiabilité. Cela place l'ouvrage dans une logique de démystification systématique, particulièrement utile pour un sujet saturé d'interprétations concurrentes. Troisièmement, le procès des Templiers comme instrument politique et judiciaire, le livre accorde une place centrale au procès de l'ordre, car c'est là que se joue l'effondrement public des Templiers. L'intérêt de cette séquence tient au fait qu'elle ne peut pas être comprise uniquement comme une affaire religieuse, elle renvoie aussi au rapport de force entre la monarchie française, la papauté et un ordre devenu trop puissant pour certains intérêts politiques. En s'appuyant sur les archives du procès, l'ouvrage met en lumière la manière dont les aveux, les accusations et les procédures ont été façonnés par la contrainte et par le contexte institutionnel. Cette approche aide à comprendre pourquoi les versions livrées par les sources doivent être lues avec prudence. Le livre ne réduit pas l'événement à une simple conspiration, mais montre plutôt un mécanisme complexe de répression, de pression judiciaire et de récupération politique. Le lecteur obtient ainsi une vision plus nette des causes de la dissolution de l'ordre. Ce traitement du procès constitue aussi une leçon plus large sur le Moyen-Âge tardif. Les institutions judiciaires pouvaient être des outils de pouvoir et l'histoire des Templiers illustre de façon exemplaire cette réalité. Quatrièmement, le trésor Templier, le Baphomet et le Graal trois mythes passés au crible. L'ouvrage s'attaque explicitement à plusieurs motifs devenus centraux dans l'imaginaire collectif. Le trésor templier, d'abord, est présenté non comme un mystère insoluble, mais comme un ensemble d'éléments que les inventaires et les saisies permettent de documenter. Cette perspective déconstruit l'idée d'une fortune cachée ayant survécu à la disparition de l'ordre. Le Baphomet, ensuite, est traité comme une accusation née dans l'univers du procès et amplifiée par la torture, ce qui invite à réfléchir à la fabrication des aveux et à la fragilité des témoignages sous contrainte. Enfin, le Graal est évoqué comme un thème absent des dossiers médiévaux templiers connus, ce qui souligne la distance entre l'ordre historique et les constructions littéraires ou ésotériques ultérieures. Ces trois exemples sont importants, car il montre le même mécanisme, un manque de preuves, peut être transformé en terrain de spéculation, puis en récit autonome. Le livre cherche justement à refermer cet espace spéculatif en rétablissant la primauté du document, ce qui le distingue des ouvrages qui entretiennent volontairement l'ambiguïté pour des raisons narratives. En dernier lieu, comprendre la place réelle des Templiers dans l'économie et la société médiévale, au-delà du procès et des légendes, le livre insiste sur la dimension concrète de l'ordre dans la société médiévale. Les Templiers ne sont pas seulement des combattants, ils administrent des biens, structurent des commanderies, assurent des transferts de fonds et participent à une forme de circulation financière à l'échelle européenne. L'intérêt de ce point est double. D'une part, il permet de comprendre pourquoi l'ordre a été perçu comme puissant et parfois suspect. D'autre part, il rappelle que sa disparition n'efface pas son rôle dans l'organisation économique du Moyen-Âge. Le livre suggère ainsi que leur puissance ne venait pas d'une aura secrète, mais d'une structure institutionnelle efficace, adaptée aux besoins de la croisade, de la propriété foncière et des échanges à longue distance. Cette lecture est précieuse pour les lecteurs qui veulent dépasser la vision simplifiée du moine guerrier mystérieux. Elle replace les Templiers dans une histoire sociale plus large, où la logistique, la gestion des ressources et l'implantation territoriale comptent autant que les batailles et les procès. En conclusion, L'Ennuf, l'histoire vraie des Temeliers 11-19-314, elle s'adresse surtout aux lecteurs qui veulent une histoire des Templiers fondée sur les sources plutôt que sur les romans historiques, les théories ésotériques ou les récits de trésors cachés. Il conviendra particulièrement aux passionnés de Moyen-Âge, aux amateurs d'histoire religieuse et politique, ainsi qu'à ceux qui cherchent à comprendre comment se construit une légende à partir d'événements réels. Son principal intérêt est de combiner une synthèse accessible avec une volonté nette de démystification. Là où beaucoup d'ouvrages sur les Templiers exploitent le mystère, celui-ci choisit l'examen critique des archives, des procès et des documents médiévaux. Cette orientation le rend utile pour lire l'histoire de l'ordre sous un angle plus sobre, mais aussi plus solide. Il se distingue ainsi des livres purement narratifs par sa méthode et des livres sensationnalistes par son refus de spéculer. Pour un lecteur souhaitant distinguer l'histoire documentée de l'imaginaire templier, c'est et précisément cette exigence qui fait sa valeur. Si vous souhaitez soutenir Valeurs de France, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !